Dernière nouvelle, le chômage a baissé cette année de 0,1%. Donc, avec la politique actuelle, dans 10 ans, il aura baissé de 1%, dans 100 ans, de 10%, et dans 1000 ans, le chômage sera éradiqué. Patience, chômage.
Oui, bonjour, Françoise du Havre. Alors, je viens d'entendre la Carchazal, là, qui vient de dire aux 20h de vendredi, à propos d'une famille qui n'avait pas d'électricité, dont l'enfant était donc en hypothermie, que ces gens étaient incapables de payer leur note d'EDF. Alors, je suis désolée, madame Chazal, je les accompagne, moi, je suis ces gens, hein. Ils sont aussi capables que vous de payer leur facture. Par contre, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que actuellement, avec les revenus minimums, et là en plus c'est une apparemment une femme qui est sans papier, ils n'ont effectivement pas les moyens de payer l'électricité, surtout quand ce sont des vieux logements où le seul chauffage, effectivement, c'est l'électricité, et on a des notes d'électricité qui montent à des sommes exorbitantes. On a affaire à des agents EDF qui sont intraitables. Cette semaine encore, j'ai quitté le lieu d'une agence EDF en me disputant avec un type parce qu'il voulait pas qu'on puisse s'arranger au niveau du paiement. Voilà, c'est ça. Alors, ils sont capables comme tout le monde, sauf qu'il leur faut du fric. Un point, c'est tout. Allez, salut.
Bonjour, c'est Claude. J'appelais pour réagir par rapport au propos d'un certain député UMP qui, 60 ans, au 60e anniversaire de la libération des camps, ose prétendre que les homosexuels sont nuisibles à l'évolution de l'humanité. J'espère qu'il y aura une réaction de notre président de la République qui est si fier d'aller dénoncer cette extermination de tous les déportés juifs, homosexuels, tziganes, communistes et autres. Voilà, juste un peu plus de révolte encore aujourd'hui. Au revoir.
Et par rapport au sujet d'aujourd'hui qui sont les tziganes, je voulais te faire savoir, parce que c'est très peu connu, que le dernier camp de tziganes qui a fermé pour la dernière guerre mondiale, il a fermé en septembre 1945 dans le Maine-et-Loire. À la limite, à Montreuil-Bellay, à la limite du Maine-et-Loire, de l'Indre-et-Loire et des Deux-Sèvres. Et personne n'en parle. Il y a très peu d'écrits sur la question. Moi, je n'ai pas eu le temps. Quand je serai en retraite, je le ferai. J'essaierai d'aller voir un peu au niveau des archives. Mais il y a très peu de choses et personne n'en parle. Et c'est vraiment révoltant. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le Maine-et-Loire, c'était pas une région qui a été très forte au niveau de la résistance. Ils ont beaucoup collaboré, ce qu'on appelle la collaboration passive. Voilà. Salut, c'est Pierre.
Bonjour, dans toute la liste des oubliés des camps, les plus oubliés de tous les oubliés restent les peu nombreux certes, mais existants noirs, noirs d'Allemagne, tirailleurs sénégalais, noirs américains massacrés comme les tirailleurs sénégalais, et noirs stérilisés, noirs avant le nazisme, génocidés dans des camps de concentration en Namibie, identiques à ceux qu'on trouvera plus tard en Pologne. Et bon, ce ne sont que des nègres, c'est pas grave, comme la traite, c'est pas grave. Au revoir.
Je téléphonais parce que tout à l'heure, il y avait une jeune femme qui disait « on a oublié de parler du camp de Dora ». On a aussi oublié de parler d'un camp qui se trouvait en France, c'est le camp du Strudhof. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé des Noirs qui ont été exterminés dans les camps. Alors, il y en a à peu près 30 000. C'est vrai que ça peut paraître peu, mais compte tenu du nombre de Noirs qui vivaient en Europe à ce moment-là, ça fait quand même beaucoup. Voilà, merci d'en parler un peu. À bientôt.
Voilà, Daniel, tu parles des minorités qui ont subi de lourdes pertes pendant pendant la guerre, pendant la déportation, dans les camps nazis ou autres. Tu nous parles des homosexuels, tu nous parles des tziganes aujourd'hui. Mais j'aimerais attirer ton attention et celle des auditeurs sur une population, sur un public qui a été carrément oublié, même des livres d'histoire. Ce sont les triangles violets. Ce sont des hommes, des femmes qui ont été déportés à cause de leur foi. Leur foi les a poussés à rejeter ce régime nazi, à vouloir lutter contre Hitler et contre ses idées. Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont morts aussi dans les camps de concentration dès 1933. Ils sont plus connus sous le nom des témoins de Jéhovah. Et c'est vrai que ces gens ont beaucoup souffert aussi de cette barbarie nazie.
Oui, bonjour Christian de Toulouse, j'ai 30 ans, je suis non-voyant. Et en fait, à cause de cette tragique commémoration, on s'aperçoit que donc de nombreuses catégories de la population ont été victimes de cette folie dans la Seconde Guerre mondiale. Et moi, en fait, je voulais savoir qu'en est-il des personnes handicapées qui ne faisaient pas partie, je crois savoir, des catégories supérieures pour les nazis, notamment quelle a été leur condition en France, y a-t-il eu des exterminations ou des ségrégations à ce niveau? Voilà, je vous remercie si vous pouvez parler quelques minutes dans cette émission de ce sujet. À très bientôt et bravo Daniel et à toute l'équipe.
Merci Daniel Mermet pour cette émission sur les Roms. Je voudrais signaler que dans le département de la Manche, que je connais bien, il y avait eu deux camps d'internement des Roms. Et que dans un de ses derniers polars, Didier Deninx rappelle cela, c'est la trame de son histoire. Son livre s'appelle La route du Rhum, c'est très intéressant, on peut le conseiller. C'était Georges, bonne continuation.
Ouais, salut Daniel, je suis en train d'écouter ton émission sur les Roms là. Moi je suis élu d'une petite commune de Bretagne Sud, j'ai bien entendu dans la bouche de notre maire, premier magistrat de la commune, que c'est dommage qu'Hitler soit mort trop tôt parce qu'il aurait éradiqué tout ça. C'est quand il voit les gens du voyage venir passer quelques jours sur notre commune. C'est Alain, dans Bretagne Sud. Salut.
Les handicapés, les asociaux, les témoins de Jéhovah, les noirs, vous ne voulez pas oublier les oubliés de l'extermination. On a beaucoup de messages sur le répondeur suite à nos deux émissions de jeudi et de vendredi. L'un sur l'extermination des homosexuels, l'autre sur l'extermination des tziganes. Mais vous rappelez les témoins de Jéhovah, effectivement, les noirs, la question des handicapés. Il faut rappeler que c'est les handicapés physiques ou mentaux qui ont fait les premiers les frais de la dinguerie exterminatrice, puisque c'est les premiers à avoir été massivement gazés par le régime nazi. Voilà, il y a beaucoup, effectivement, beaucoup de messages aussi sur les Noirs. On découvre que les Noirs ont été déportés, exterminés. Et puis beaucoup d'entre vous parlent de la Namibie et du massacre des Hereros, effectivement, en 1904. Des dizaines de milliers de ressortissants de cette ethnie, les Hereros en Namibie, ont été massacrés par ceux qui avaient la charge et la responsabilité et la propriété, enfin le mandat, disons, sur la Namibie, c'est-à-dire le gouvernement allemand, qui ont exterminé ce peuple Herero avec les mêmes techniques que celles qu'on verra ensuite dans le génocide des juifs et des Roms, c'est-à-dire une systématisation de la destruction, la volonté de détruire jusqu'au dernier des Hereros par pendaison, par camp de concentration, par travail forcé, il y a eu aussi des expériences médicales qui ont été faites sur des Hereros en Namibie par un entre guillemets médecin qui sera ensuite le maître de Mengele. Donc il y a eu en Namibie comme une sorte de répétition générale, de maquette sinistre du génocide, et ça c'est quelque chose qui vous a beaucoup intéressé, voilà, dans toute cette semaine de commémoration. Aujourd'hui un autre sujet, à la fois plus léger, mais avec une certaine gravité aussi, même si c'est pas du tout la même, une salle de musculation, la muscu, c'est un endroit où on dit muscu, on dit pas fitness. Non, on dit muscu, c'est à Amiens, dans un quartier qu'on dit sensible. Voilà, c'est le premier reportage d'un nouveau reporter qui s'appelle François Ruffin. On y va.
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour convaincre les Français.
Qui dira aujourd'hui les visions humanistes de l'économie,
qui fait du travail quelque chose qui est un allié de l'homme et non pas l'adversaire.
On ne fait pas assez d'efforts par notre
Je dis aux jeunes, la fête, c'est la vie. La vie, c'est ton visage. Ta vie, elle est importante pour toi, elle est importante pour tes proches, pour tes amis.
Du jour au lendemain, je peux être viré. Même, regardez, un truc tout simple. Vous l'achetez demain. Vous allez, mettons, dans un magasin, genre style Confo ou autre, avoir une carte, je sais pas quoi, une carte de fidélité, pour le client en plusieurs fois. C'est impossible, parce que vous êtes intérimaire.
avec un vrai contrat et dans une vraie entreprise pour avoir...
Je crois qu'il y a de graves difficultés dans la société française.
Il y a une jeune chanteuse qui n'est pas tout à fait de ma génération, mais qui parle aujourd'hui de positive attitude. Je vous recommande la positive attitude.
Nous avons fait la seule réforme qu'il était nécessaire de faire, qui était de réorganiser le SMIC à l'intérieur des entreprises pour pouvoir avoir une dynamique du SMIC.
Franchement, je ne suis jamais parti en vacances, mais ça me plairait de partir.
Donc, tu es sorti de l'université? T'as eu 10 mois de chômage. T'as eu un contrat d'un mois et demi et tu te retrouves à nouveau au chômage.
La positive attitude, elle est très importante. Alors elle est quelquefois décriée. Alors
voilà, c'est une force épanouissante et que c'est une conquête de liberté de dire aux jeunes aujourd'hui qu'il n'y a pas meilleure liberté que celle qui peut leur permettre de conduire librement leur vie. Périclès, c'est bien avant les autres. C'est en par le travail notamment qu'on peut conquérir cette indépendance, cette autonomie qui est quand même le ciel.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec François Ruffin, la muscu attitude.
Flight number 2, arriving from
Prévention de la délinquance amiénoise. Prévention de la délinquance amiénoise. Amiénoise, ça veut dire que ça se passe à Amiens. Et la prévention de la délinquance, voilà qui est une chose importante. Notre Premier ministre vient de nous le dire et de nous le répéter. Aujourd'hui, la muscu attitude, la musculation comme moyen de prévenir de la délinquance. À Amiens, en l'occurrence, mais partout. Alors, on est à Amiens, effectivement, dans un quartier sensible d'Amiens. Et là, on dit pas fitness, hein, je le disais, on dit pas fitness ici. Il y a 4 millions, quand même, de pratiquants de la fonte, du muscle et des grosses épaules et des ventres plats. Là, on dit muscu. On dit muscu parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Et on va avec François Ruffin, non pas Ruffin, mais Ruffin, découvrir cet endroit. C'est un petit couloir assez sombre. C'est un local sans fenêtre. Et ici viennent les gars du quartier. Pas de filles, non, il n'y a pas de filles dans le coin. Et qui sont les gars du quartier? Ben, c'est ce qu'on va découvrir. C'est ce qu'on va découvrir. Plutôt des rejetés, plutôt des relégués, plutôt des exclus, plutôt des désarmés. Et quand on est tout ça, ben, où est-ce qu'on va? Ben, à l'église, pas tellement. Au bistrot, oui, mais point trop n'en faut. La famille, ce qu'il en reste. Il y a le sport, effectivement, on peut se retrouver dans le sport, mais il faut avoir l'équipement, il faut avoir tout ça. Et il y a aussi la salle de muscu. Là, on se fait, à défaut d'être bon à rien, on est beau à quelque chose dans la salle de muscu. On fonctionne, on a un repère, on se retrouve, on a l'impression de servir à quelque chose. On n'est pas tout à fait moins que rien, puisqu'on peut quand même être beau. Et puis, on échange des tuyaux, et puis on espère, et puis on attend, et on est tous sauf des victimes. On est tous sauf des victimes. On est là, entre soi, avec Mohamed. Mohamed, c'est lui qui nous ouvre la porte de la salle de muscu. Et qui nous présente les lieux.
Je ne porte pas de perlouse, je ne suis pas un nervi, je trouve que ça fait tartouze, et c'est pourquoi moi je vous le dis.
J'ai l'air de ne pas avoir l'air, mais avec mon air, je fais la pige à bébé. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe, j'ai discuté. Car des bataillons d'Afrique, je porte la marque fabrique. Et voilà tout le portrait dans ta foi dans dur babra.
C'est une salle qui fait à peu près 85 mètres carrés. Il peut y avoir à peu près une trentaine d'appareils. Comme par exemple, ici, là, c'est ma chaîne post-triceps. Si je la baisse un peu plus, je suis comme ça. Là, je fais les biceps. Là-bas, t'as un miroir qui ont cassé. Les glaces, c'est pour voir, en fait. Comme là, Florent, il a travaillé les obliques. Il rate bien fait, s'il va positionner tout.
Alors là, au mur, je vois, il y a des photos. Qui sont les personnes qui se trouvent
Bon, là, c'est sa photo, bon, c'est un calendrier de l'année 2005, et Franck Clambeau. En bas, c'est Arnold Schwarzenegger. Ça, c'est des gars qui font du bodybuilding. Hein. Ça, ils font des concours. Hein. Ça, c'est Bruce Lee, ça. Un Cambodgien qui a ramené ça. Hein. Là, Bruce Lee, il fait une pose d'orso, là.
Donc c'est des posters qui indiquent tous les exercices à suivre, de manière à se muscler sans se blesser, c'est ça?
Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, c'est là, comment il faut se positionner, comment il faut faire les mouvements, les charges, etc. Quoi.
Mais bien sûr, ça ne remplace pas les compétences de nos professeurs, Mohamed, Jacques et Miloud, n'est-ce pas?
Tu viens souvent à la salle de muscu?
Ouais, je vais régulièrement, j'ai commencé, j'étais gamin à 16-17 ans. Mais ça fait bizarre de transformer notre cours. À l'époque, on était gamins, on jouait au foot là-dedans, et puis là, on vient s'entraîner à la muscu.
Parce que avant ici, c'était le préau où t'étais à l'école.
Exactement. Bah là, justement, c'est ici qu'on faisait les petits matchs entre nous, les 55, etc. Ouais, ça fait bizarre, mais bon, on prend ce que nous donne, et puis on espère que ça va changer un petit peu.
Ça va changer un petit peu. Alors, ça va changer un petit peu. Qu'est-ce qui va changer un petit peu? À défaut de changer le monde, on se change soi-même, on se change le corps, quoi. On se change les idées aussi en même temps, et on est le plus beau possible. Évidemment, pour ça, il faut souffrir.
C'est quoi l'exercice que tu viens de faire?
C'est pour travailler les épaules et les deltoïdes. C'est juste devant, en fait. Là, je le fais debout, mais on peut le faire assis aussi. C'est pour élargir les épaules. Que ce soit bien volumineux, quoi. Pas avoir toujours des gros pecs, puis pas d'épaules, puis pas de bras, en fait.
Et ça fait combien de temps que tu fais de la muscu?
Ça fait un an et demi. Je m'en fais avec Seb.
Et vous avez commencé ensemble, la muscu?
Je commence avant lui, moi. Non, lui, c'est mon coach. C'est lui qui me fait montrer les mouvements, les gestes qu'il faut pas faire. Comme nous, on travaille en week-end, puis la semaine, je fais rien, quoi. On a tendance la semaine à manger beaucoup, quoi. Puis c'est pour pas devenir gros, quoi, avoir un gros ventre.
Vous travaillez ensemble, en fait
Mais nous, ouais, on travaille à la muscu ensemble, puis on travaille le week-end ensemble, quoi. On travaille à la même usine, quoi.
C'est où?
C'est à Dunlop, on travaille. Moi, je cuis les pneus, et lui, Aldo, il les range les pneus dans des palettes, quoi.
Vous êtes tous employés ou...
Non, moi, je suis toujours intérimaire.
Vas-y, excuse-moi. Hein. Tu fais face au miroir pour que le
dans mon mouvement, si je courbe le dos ou si je fais une erreur pour la rectifier après par la suite.
Pour pas se blesser alors.
Voilà, ouais, c'est important.
T'habites le quartier?
Ouais, avant j'habitais au quartier nord, ouais. Puis là j'avais du mal à déménager parce que j'avais fait une demande à l'OPAC. Mais comme toujours, j'habitais toujours chez mes parents et que j'étais intérimaire, pourtant j'avais une bonne paye. Parce que avant je gagnais à peu près 1 500 € par mois, net.
Mais on fait 1 500 € quand on est intérimaire?
Ça dépend des boîtes en fait. Ça dépend. Franchement, enfin, on va avoir de la chance. Moi, j'ai déjà travaillé dans une centaine d'usines. Je vous dis, j'ai déchargé des canons de 45 tonnes toute la journée. J'ai gagné quoi? J'ai gagné 5 500. Et dans d'autres usines, je faisais rien ma journée. J'ai gagné plus de 10 000. Seulement, en fait, c'est le monde à l'envers.
Et donc, t'as trouvé un logement quand même par l'OPAC?
Non, propriétaire privé. Et encore là aussi, j'ai ramé. Quand vous appelez un propriétaire, vous êtes intérimaire, même si vous gagnez bien, il n'est pas obligé d'accepter en fait. Vu qu'un intérimaire, c'est un point instable. Moi, du jour au lendemain, je peux être viré. Même, regardez, un truc tout simple. Vous voulez acheter des meubles. Vous allez, mettons, dans un magasin, genre style Confo ou autre. Avoir une carte, je sais pas quoi, une carte de fidélité, que vous pouvez payer en plusieurs fois. C'est impossible, parce que vous êtes intérimaire. Vous serez embauché, vous l'aurez. Donc, les meubles, vous êtes obligé de les acheter cash. Vous n'avez pas l'argent, bah, niet.
Et c'est un choix d'être intérimaire, mais c'est parce qu'ils embauchent pas.
Parce qu'ils embauchent pas. Ça, c'est sûr. Puis c'est dur de trouver, de se faire embaucher quelque part. Ça, c'est dur. Et puis, ils embauchent pas, quoi. Non.
T'es pas très âgé, t'as peut-être pas un désir de t'installer. Je sais pas si t'as une femme.
Comme tout le monde, j'ai envie d'avoir ma maison, de partir en vacances ou faire des projets dans l'avenir. Mais vu que je suis intérimaire ou du jour au lendemain, je peux être au chômage, je peux pas acheter une maison. Je vais pas faire un crédit en sachant que je peux être au chômage.
Donc tu peux pas vraiment t'installer pour partir en vacances. Tu peux partir en vacances ou
franchement, je suis jamais parti en vacances, mais ça me plairait de partir.
Mais vis-à-vis d'un LOP, si tu leur dis le mois prochain, je suis pas là, je suis en vacances.
Ouais, fin de mission. Ah oui, fin de mission. Mais je peux pas me permettre de dire je prends 2 semaines de vacances à tel mois.
Et c'est des contrats de combien de temps qu'on te fait chez Dunlop?
Des contrats de semaine, de week-end en fait.
Ah bon, t'es renouvelé de week-end en week-end?
Voilà.
Donc c'est quand est-ce que t'apprends si tu peux revenir la semaine d'après ou pas?
Ma bonne intérim, il m'appelle dans la semaine, puis ils me le disent. Ou mon chef, il me le dit.
Finalement, vous êtes intérimaire, mais vous êtes des intérimaires permanents.
Voilà, ouais.
Et comment t'expliques qu'ils fonctionnent avec des intérimaires permanents?
Plus facilité à gérer le personnel. C'est le jour du lendemain, ça leur plus ils nous jettent. Qu'un embauché, ils peuvent pas. Sinon, le gars, il entraîne au prud'homme. Après, ils sont obligés de verser de l'argent. Ou ils sont obligés de trouver une bonne excuse pour faute professionnelle. Qu'un intérimaire, non. Fin de contrat, c'est tout.
Toi, là, t'y es depuis combien de temps à Dunlop?
C'est 20 mois.
20 mois?
Ouais, 20 mois.
Mais alors, tu disais, au-dessus de 18 mois, ils sont obligés d'embaucher.
Ouais, là, normalement, ils doivent m'embaucher.
Et tu comptes qu'ils vont t'embaucher?
J'espère bien.
Et si jamais ils t'embauchent pas, tu vas aller voir un syndicat? Comment tu...
Franchement, j'irai voir leur chef, j'irai voir la CGT, ou la FO. J'ai jamais été embauché, en fait. Toujours t'en viens d'intérim. Et puis, si on a la chance de tomber dans une boîte qui nous garde assez longtemps, puis que se faire embaucher, c'est vrai, quoi.
Je vais te le dire sur un autre ton, encore un plaidos du béton, un de ceux qui a poussé sous les cloisons. Et si à chaque jour suffit sa peine, et si aujourd'hui je fais des miennes, c'est que chez nous la coupe est pleine, celle qui déborde la misère, celle où se noient les masses prolétaires. Quand tes places sont de plus en plus chères, quand tes flics nous font la guerre, quand tes mairies foutent des barrières, et quand ils chassent la mauvaise herbe de leur parterre. Encore une ville fleurie qui pue la merde, quand ils parlent d'insécurité, quand ils serrent les arabes, les noirs pour contrôle d'identité, les mêmes qu'on retrouve à Stock avec le badge sécurité. La vérité, c'est tout ce que je vois qui m'inspire, chaque minute que je vis et chaque goutte que je transpire. Quand je prends conscience que si l'on se fie aux apparences, tout est beau. Quel beau tableau, l'on cache les carences. Si l'on se fie aux apparences, tout est beau. Pur pays de mon enfance qui marque une différence de peau, souligne une différence, riche, beau. Il y a les bourreaux, leur sous-fifre à la tiraille de support. Y'a du pain, du vin et du fromage. Les miettes on se les bouffe dans nos cages à plusieurs étages. Et de temps en temps on t'envoie la télé, encore un reportage bâclé. On filme les sauvages et leurs démêlés. Pire, on truque ton flash d'info. En fait ils créent l'info pour faire ton lavage de cerveau. Alors on boycotte tes symboles, tes chaînes polluent. Et quand mon quartier est malade ils poussent des paraboles. Ces symptômes, violence, alcool, drogue, et tout ce qui pourrit les esprits et les rend claustrophobes. Pire qu'un microbe, putain ça pue. La merde dans ma rue, la pisse dans mes escaliers. Et sur les murs on a tout marqué, le passé, le vécu, comme s'il pouvait tout effacer avec un coup de peinture. Acteur et spectateur aussi, je prends du recul, ça sent le roussi. Si l'on se fie aux apparences, tout est beau. Pur pays de mon enfance qui marque une différence de peau, souligne une différence, riche, beau. Il y a les bourreaux, leur sous-fifre à la tiraille de suppos. Un cortège qui a vu de vermine, qui défile sur les flopées du team. Si je tiens debout parmi celles qui ont pu se relever, l'amnésie, je me préserve, saura pas me frapper. Ce n'est pas le type de graines que je cultive, il faut dire. Ces viscérales d'une force à vous ronger le sourire. À quel point la hagna a pu nous faire vomir. À quel point la hagna a pu nous faire vomir.
APREDA s'appelle cette association, Association pour la prévention de la délinquance amiénoise. Ça se passe à Amiens, dans cette salle de muscu d'un quartier sensible d'Amiens, 85 mètres carrés, 30 appareils, et puis voilà, ça marche. Et voilà, les gars qu'on trouve là, le patron d'ailleurs de cet endroit qui s'appelle Jacques, a dit le truc muscu, ça m'intéressait pas du tout, je voyais plus l'aspect social. Jacques, c'est le fondateur de cet endroit, c'est le directeur de cet endroit, en 85, je crois, 87, il a eu l'idée de créer un petit endroit comme ça. Il avait un copain forgeron qui avait forgé quelques machines, quelques trucs comme ça pour se faire des muscles, et puis voilà, il a créé cette association, et c'était un bon machin, un bon truc pour avoir des subventions, bah oui. Et puis, mais c'est pas facile, parce qu'une fois que ça marche, une fois qu'il y a des adhérents, il y a des gars qui viennent là-dedans, bah il faut des emplois. Enfin, on est amené à créer des emplois, enfin des CES, quoi. Vous voyez, c'est un genre d'emploi qui ne sont pas vraiment des emplois, mais enfin ça fait comme si on en avait, hein, puis ça donne un petit peu d'espoir d'en avoir, hein, même si c'est absolument faux. Mais enfin bon, il faut bien faire semblant, d'attendre en faisant semblant. Et ça n'est pas simple, tout ça, quand on dirige une salle comme celle-là, rencontre avec Mohamed, Jacques et les autres.
Au départ, Jacques, quand il a voulu s'implanter sur son quartier, c'est-à-dire Fafé, bon, on a rendu sa vie à beaucoup de gens. C'est ça que lui, ça fait 18 ans, l'association-là, bientôt 18 ans. En 18 ans, il a pris plus de 60 personnes. Bon, après, il ne peut plus aussi non plus garder 60 personnes. Là, à un moment donné, le pauvre, il a eu des problèmes, il a même voulu partir. On l'a retenu. Ah, ça y est, heureusement qu'on l'a retenu. On l'a pas retenu. Aujourd'hui, on s'en parle. Neymar.
Alors, Jacques, t'es le patron de Milou et Mohamed, c'est ça, t'es le grand boss ici.
Le patron, c'est un bien grand mot, quoi. Disons que ça se manifeste surtout en termes de salaire. J'ai un salaire qui est plus élevé que le leur.
Ça s'est passé comme Mohamed y raconte.
C'est vrai que j'avais pris pas mal de personnes donc en contrat, et les autres jeunes me demandaient pourquoi eux, à leur retour, pouvaient pas obtenir un contrat. Donc là, c'est vrai qu'il y avait une certaine forme de jalousie qui se manifestait.
Donc c'était une jalousie pour obtenir un CES, pour obtenir un contrat pour solidarité. Dont le revenu se situe aux alentours de 3000 francs par mois, quoi.
Même moins que ça, hein. C'est entre 2005 et 2008. Et c'est vrai que les gens voulaient aussi jalouser leurs copains, puisque eux aussi voulaient bénéficier de ce type de contrat. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que j'étais peut-être plus visé aussi au niveau des vols, quoi.
C'était chez toi personnellement, alors?
Voilà, c'était chez moi personnellement. Il y avait des vols, surtout tout le monde me connaissait. Et on savait les moments où j'étais absent, quoi. Et de manière, je dirais, presque systématique, sans exagérer, lorsque je revenais chez moi, il y avait la porte qui était fracturée, ou alors les vitres qui étaient cassées, et l'appartement qui était sans dessus-dessous, et plusieurs fois par an, quoi. Et pourtant, j'avais pratiquement rien dans mon appartement, une table, une chaise, et une petite télé, quoi. On peut dire que c'était une situation traumatisante, quoi. Hein.
C'est-à-dire, on te mettait un peu la pression pour être embauché à la Préda, ou
Un peu, je dirais même beaucoup. Hein. J'ai été victime aussi d'agressions physiques, menacé avec arme blanche, revolver, gazé. Enfin, j'ai connu un peu tout, quoi. Hein. Et c'est vrai que à plusieurs reprises, j'ai voulu partir.
Alors, Mohamed Miloud, enfin Jacques, il dit ça. Avec votre place ici, vous faites des jaloux?
La jalousie d'aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant. Encore pire qu'il y a 10 ans en arrière.
Et pourquoi?
On a été emmerdé, c'est plutôt avec les grands, c'est pas avec les adolescents. C'est à cause de quoi? À cause du boulot, hein. Parce que les mecs, ils galèrent, et puis voilà. Ils croient que Jacques, c'est un patron. Jacques, il est pas patron, il est rien du tout, hein. Je veux dire, demain, on peut être dehors, hein. C'est pour ça qu'on se la raconte pas, quoi. Je veux dire, demain, on peut être dehors. C'est pas nous qu'on décide, hein. Je peux les comprendre, un mec qui a pas d'argent, tout ça, bon, qui est un peu envieux, on peut le comprendre, mais bon, si tu connais un gars qui était dans la même galère que toi, puis qu'il a réussi, puis qu'il est bien, ben, ils vont te faire la gueule, ils vont pas parler avec toi, ils vont être jaloux, ils vont parler sur ton dos, ouais, elle a changé, c'est devenu une prostituée, c'est devenu salope.
Mais alors que vous gagnez pas des masses, quand même, enfin.
On gagnerait encore comme le président de la République ou quoi, je peux comprendre qu'ils sont jaloux. Mais un SMIC, c'est pas 20 000 balles par mois, hein.
Les gens, ils sont jaloux d'un SMIC maintenant.
Ouais, bien sûr, ils sont jaloux d'un SMIC, ouais. Bah, tu sais, le jeu d'aujourd'hui, le boulot court pas les rues, puis bon.
Par la suite, s'il y a par exemple des CDI qui embauchent, bon, c'est mal, parce qu'on a depuis le début. Il ne faut pas aussi non plus prendre 40 personnes.
Là, mon mec, il est en appui de relais, mais bon, ouais, Jacques, il va le faire passer en CDI, ce qui est normal, parce que ça fait combien de. Pas mal d'années qu'il est là. C'est pas un autre qui va prendre sa place, quoi. C'est impossible, ça.
Puis en plus, bon, maintenant, je ne suis plus maintenant célibataire. Encore, à l'heure, je suis célibataire. Bon, mon contrat est fini, même ici. Bon, je m'en vais. Bon, c'est pas grave. Je peux laisser ma place à un autre. Ça dérange pas. Mais comme là, maintenant, je suis marié, j'ai un enfant, maintenant, je crois que... Moi, maintenant, si je pars d'ici, c'est pas à peine. Je pourrais pas trouver du travail, là, ailleurs. En plus, 43 ans bientôt, avec les bagages que j'ai. Pour moi, ça va être très, très, très dur. Moi, j'ai mon frère, moi. Il a un Mac plus 5 en mention modeste. Il est ingénieur. Ouais. Camarade, il fait des marches. Il est en train sur Paris. Ça, il est là, venu. Là, en ce moment, il est encore en train d'envoyer des CV. Tu sais comment ça s'appelle, là, c'est sur ordinateur, là. Sur email, non?
Alors voilà, Ahmed, il est à côté. Mais un petit mot, d'abord, sur un chiffre. 9,9. C'est le chiffre que les crocodiles déplorent et que les requins adorent. 9,9, c'est le chiffre du chômage. Un chiffre hautement manipulé et hautement manipulable. C'est le chiffre qui assure l'ordre social et qui assure le contrôle social et qui a permis et qui permet de faire de milliers, de centaines de milliers, de millions de salariés des variables d'ajustement. Un chiffre que les crocodiles déplorent et que les requins adorent. Concernant les jeunes, puisque nous sommes avec des jeunes dans cette salle de musculation, je le rappelle, dans un quartier sensible d'Amiens, il faut rappeler que si on s'en tient à ces chiffres discutables, malgré tout, les moins de 25 ans voient leur chômage augmenter. Plus 2,2% pourcentage total, 21,2% de cette population, celle des 15 à 25 ans, en France, est au chômage. Quant à la question des diplômés, puisqu'on va discuter avec Ahmed qui est en train de pédaler, littéralement, les gars, ils ont des métaphores, galérer, suer, pédaler, ben ils le font vraiment physiquement dans cette salle de musculation. Concernant les diplômés, les chiffres sont les suivants, ceux qui sont avancés sont les suivants, puis toujours, bien sûr qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Chômage, donc, sans diplôme, 15,3, BEP, CCAP, BEP, 9,4, baccalauréat avec baccalauréat, 9,5, bac plus 2, 6,4, et diplôme supérieur, 8,3. Faut pas être trop diplômé, hein. Mais enfin, c'est mieux d'être diplômé que pas diplômé du tout. C'est entre pire et moins pire. Ahmed.
Moi, chaque fois que j'arrive, je fais d'abord au moins 10 à 20 minutes de vélo avant d'attaquer les jambes. Je fais de la muscu en complément d'un sport, puisque moi je fais du volley en club. C'est pour ça que je fais beaucoup plus les jambes que le haut, pour gagner de la détente. Comme au volleyball, on saute beaucoup et on fait beaucoup de répétitions de saut, c'est important.
Et à côté de ça, tu travailles?
Aujourd'hui, j'ai terminé mes études en 2003. Des études d'informatique, en fait. Je me suis arrêté au 2SS. Donc, ensuite, je pouvais plus aller plus loin. Ensuite, j'ai postulé à droite, à gauche. Au bout de 10 mois, j'ai trouvé un emploi sur Paris.
Au bout de combien de temps?
10 mois.
10 mois? Alors que tu avais un bac plus 5, DESS, c'est bac plus 5, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Je sais pas, dans ta famille, il y a beaucoup de monde qui a fait des études aussi longues?
Je suis peut-être le premier arrivé au niveau bac plus 5 à l'université. Et c'est vrai que ça fait toujours un peu mal au cœur d'attendre aussi longtemps.
Donc finalement, tu réussis scolairement. En plus, tu le fais pas dans un truc genre socio, psycho, philo. Tu le fais dans un truc scientifique qui est quand même supposé être recherché.
Tout à fait. C'est pour ça, dans un premier temps, je faisais un doc de physique-chimie. Ensuite, j'avais fait une option informatique. Et c'était la période où l'informatique marchait très fort. Et le résultat, il est là. Il est que c'est au bout de, on va dire maintenant, un an et demi. Toujours, on attend d'un emploi.
Là, tu t'essouffles très fort.
Ouais, ça va faire une demi-heure que je suis sur le vélo, c'est pour ça que je commence à fatiguer.
T'as postulé dans quoi?
Au départ, dans différentes boîtes informatiques. Donc sur Amiens, le parcours classique, inscription aux ACDIC et à la NPE. Soit de façon manuscrite ou par internet, comme j'essaie de rester à jour dans mes connaissances. Donc je continuais à aller à la bibliothèque universitaire avec mon PC portable. Premiers entretiens, ça a été au bout de 3-4 mois, donc ça c'est tard.
Et ça s'est passé comment alors?
Ça s'est passé qu'au départ en région parisienne, ne voyaient pas d'un très bon œil que j'habitais sur Amiens. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, ça n'a pas marché. La première boîte qui m'a accepté de donner ma chance, c'était au bout de 10 mois. Et c'était du côté de la défense. Donc j'ai bien insisté sur le fait que j'étais très mobile.
Donc là, tu as trouvé ton premier emploi là-bas.
Voilà, c'était pour une mission d'un mois et demi.
Combien de temps t'es resté là-bas?
Un mois et demi.
Ah, donc t'es sorti de l'université, t'as eu 10 mois de chômage, t'as eu un contrat d'un mois et demi et tu te retrouves à nouveau au chômage.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus d'un an que t'es sorti de l'université, t'as travaillé un mois et demi.
Voilà, c'est tout à fait. C'est un constat un peu, on va dire, un peu triste.
T'habites encore chez tes parents, comment ça se passe?
Bah voilà, oui, j'ai 28 ans, j'habite encore chez mes parents. Heureusement, parce que plusieurs fois j'ai essayé de partir de chez moi. Heureusement que je l'ai pas fait, parce que au niveau ressources, aujourd'hui c'est le RMI. Au bout de 5 ans d'études, on se dit que le RMI ça va bien 2, 3, 4 mois, le temps de trouver quelque chose. Mais là, ça va faire plus d'un an que je touche le RMI. Et ça, par contre, ça me fait un peu, on va dire, au niveau mental, c'est pas terrible. Je suis pas en dépression, mais je me dis quand même qu'il y a un problème.
Et oui, ça, c'est pas très encourageant pour les jeunes que tu peux croiser ici.
Bah tout à fait. Je suis censé un peu donner un exemple à certaines personnes, plus jeunes que moi, qui se disent ouais, Ahmed a réussi au niveau scolaire, c'est bien. Donc lui, s'il y arrive, nous on peut y arriver. Mais là, ils me voient, ça fait faire un an, on va dire, que je suis au chômage. Donc ils se disent tout compte fait, Ahmed il s'est donné la peine pour rien. Vaut mieux, on va dire, faire le pitre en classe, puis faire comme tout le monde en général, puis rien. C'est un constat un peu, on va dire, un peu triste, mais c'est le constat qui est à l'heure actuelle.
La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le verso lève le voile, multiples sont les routes qui dévoilent. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né des poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle par j'ai travaillé juste avant le sien en 3 pièces gris et BMW la monnaie? Mais une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve était vincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai chillé chaque jour? Pourquoi quand moi je plonge, je lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile? La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le verso lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Bon, là, François, on va fumer ça dehors.
Pas trop bredouillé.
Ça fait combien de temps que tu travailles à la salle de musculation en fait, Mohamed?
Là je vais sur ma 13e année. Si tu veux, au départ, quand Jacques il m'a pris à l'association Empreda, au départ il m'avait pris pendant 3 ans de cesse. Ensuite il m'a pris en 5 ans de consolidé. Après il m'a fait un contrat d'1 an de CDD. Et 3 ans de, comment dirais-je, de à du relais. Là, j'étais renouvelé. Là, je suis encore à du relais jusqu'à 2005. Et là, je vais sur ma 13e année à la présent.
Mais avant, toi, ton parcours professionnel, c'était quoi?
Ah, le parcours professionnel. Moi, si vous voulez, j'étais jusqu'en 3e. Et puis, si tu veux, c'était à l'époque en 118. En 119, j'ai fait une préformation là-bas à l'AFPA. J'ai commencé à 16 ans, 17 ans. C'était ma première préformation à l'AFPA. Après, à 80, 81, c'était une période de chômage. 82, j'ai 20 ans. Là, j'ai fait encore un stage d'installation, on va dire. C'est-à-dire, ça se passait là-bas aussi, c'est Guillemère. On avait des cours. Et puis, à la fin, il y avait un stage d'entreprise. J'ai fait deux mois à l'hôpital Nord. C'était en 82. 83, pas de chômage. 84, pareil, j'ai travaillé pour une association qui s'appelle Association Bas Zéro à Saint-Roch. Et pareil, c'était aussi un stage. 85, j'ai fait un stage.
T'avais quoi dans l'association à Saint-Roch?
Là, ce stage-là, c'est, il y avait plusieurs branches. Il y avait, par exemple, le travail sur le cuir. Il y avait aussi travail sur le bois. Et même en même temps, en 84, j'ai même travaillé chez un menuisier, un artisan là-bas, à Haute-Verdun. Et là, c'était plusieurs stages d'entreprise de plusieurs semaines.
Et après ça, tu trouvais pas de travail après ces formations?
Non, pas étonnant. Et à chaque fois, toujours des contrats, des stages. Jusqu'à maintenant, la salle de muscu. 86, c'était pareil, c'était encore un stage, décidément. J'ai fait que des stages. Et là, c'était des stages de médecine de la forêt. Bon, le premier module, je l'ai fait sur Amiens. C'est-à-dire, il y a eu à peu près 3-4 mois de cours. Et 2 mois, j'ai travaillé à la mairie, dans tout espace vert. Et après, aussitôt, j'enchaînais. 87, bon, j'ai fait un an tuc au artillonnage. Toujours dans tout ce qui est entretien et espace vert. De 87 à 88. Après 89, j'ai fait un stage au LP des bâtiments multicompétences, c'est de la peinture et tout. J'ai fait tout ça à l'entreprise là-bas, PRM à Roland-Court.
Donc tu as fait une formation en peinture, une formation en menuiserie, voilà. Une formation en quoi d'autre?
Une formation soudeur, une formation...
Jardinage aussi?
Jardinage. Et puis là.
Malgré toutes ces formations-là, quand tu allais voir des emplois.
Moi, si tu veux, depuis l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, j'ai toujours fait des démarches. Et des démarches, j'en fais encore. Si tu veux, dans la vie, l'être humain, l'individu, pendant toute sa vie, il fera des démarches. Ça, c'est évident. Alors moi, au départ, c'est quand j'étais à l'école et je me suis fait envoyer, je commence à me réveiller. Parce que c'est vrai, regarde, mes parents m'ont dit, ouais, c'est pas bien, tu vas envoyer de l'école, tu aurais dû écouter tes professeurs, regarde maintenant, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Quelque part, il y a aussi ça. Et puis, à partir de là, je me suis pris en main, puis là, je commence à faire des démarches. Bon, j'allais à la NPE, c'est la NPE rue de Bré, des marches à la mission locale, à Amiens, à venir jeune. Et par la suite, je commençais à faire les intérims. J'ai été aussi à la démarche aussi à la zone. J'étais recherché là-bas des dossiers pour avoir d'emploi. J'ai écrit à gauche, à droite, j'ai envoyé des CV et tout. Mais pour le travail, on dirait que c'est des stages. J'ai jamais eu de chance pour trouver du boulot. Moi, dans ma vie, j'ai toujours eu la chance de trouver des formations, des contrats, des stages. Et moi, mon but, c'était peut-être faire un peu tout, n'importe quoi, mais au moins s'occuper. C'est pour ça que d'ailleurs, que je faisais que ça. Tu vois? Alors, quand l'employeur, il voyait par mon CV, comment veut-il qu'il me prenne? Un coup, il est menuisier, le lendemain, il est peintre, après-demain, il est... Non, mais c'est vrai. Alors, c'est pour ça. Parce que moi, j'ai fait un peu tout, n'importe quoi. Là, d'ailleurs, j'aurais dû faire apparemment plus formation, non pas peinture, et là, c'est dans la peinture. T'es d'accord? Ou bien, menuisier, c'est dans la menuiserie. Mais moi, c'était pour m'occuper. Tu vois? C'est d'un stage, j'en fais un autre. En plus que t'es au chômage, t'as pas de repère. T'es d'accord? T'as pas de repère, tu tournes en rond, tu fais des va-et-vient, tu sors de chez toi, tu manges, tu dors. Bon, ça, je veux dire, c'est pas une vie. C'est pas aussi non plus à chaque fois des parents qui vont payer les factures, ceci, cela. Ah, ça fait, en fin de compte, t'es obligé. T'es carrément obligé de participer. Alors moi, ce que je faisais, pour pas m'occuper, je me disais, bon, c'est pas grave, je vais faire tel stage, au moins ça m'occupe. Au moins, je suis occupé, tu vois. Je suis occupé, je travaille, et puis on trouve aussi un certain équilibre. Et en plus, moi, je faisais des démarches par moi-même. Moi, c'est pas les gens qui venaient, qui me préparent la main, on va faire des démarches. Moi, je fais des démarches moi-même. Ça, j'étais carrément autonome.
Ainsi parle Mohamed, la multicompétence de Mohamed, et il est tout à fait dans l'air du temps, Mohamed. Hein, mobilité, flexibilité, bah oui, mais ça marche plus ou moins bien. Mais quand il dit que le chômage c'est une perte de repères, et ben voilà peut-être la raison de l'existence et du succès de ce club de musculation à Amiens, un repère tout simplement. Merwan.
Tu travailles aujourd'hui? Je
suis en congé aujourd'hui.
Tu travailles lundi, mardi, mercredi, c'est ça?
Du lundi jusqu'au mercredi matin. Le contrat emploi sur le RT pendant 2 ans. Je termine mon contrat, il finit le 1er octobre 2005.
Qu'est-ce que tu faisais avant la Citadelle? T'avais eu un emploi?
Avant la Citadelle, j'étais employé de libre-service au supermarché Champion, Amiens. Ensuite, j'ai fait une formation de 3 mois dans la vente. Ensuite, je suis rentré à la Citadelle.
Et si tu avais le choix, tu aurais gardé ton emploi à Champion, par exemple, ou...
Si j'avais le choix, c'est vrai que j'aurais gardé Champion. Sincèrement, j'aurais gardé le métier d'employé libre-service.
Et c'est toi qui es parti de Champion, ou bien il y a eu un licenciement?
Non, c'était une fin de contrat.
Et c'était quoi comme contrat?
C'était un remplacement.
Donc par une boîte d'intérim ou un contrat à durée déterminée?
contrat duré déterminé, c'était un contrat que j'ai décroché dans une annonce. C'était tout ce qui touche le métier d'employé libre-service, donc c'est le, là, il y avait la réception des marchandises, la mise en rayon, il y avait aussi un peu de facing, renseignement des clients. J'ai fait tout, la seule chose que j'ai pas fait, c'était la caisse.
Et donc après ça, ils t'ont rien proposé?
Si, ils m'ont dit que je pouvais laisser une lettre de motivation, un CV, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, mais j'ai jamais eu de suite. Quoi. J'ai vu mes ressources baisser, mais bon, ça m'a pas empêché de... Je suis réussi à subvenir aux besoins de ma famille. Quoi. En pensant que j'ai une femme et trois enfants, c'est pas évident. Quoi. C'est sûr que j'ai le sentiment de me priver sur beaucoup de choses. Hein. C'est limite, quoi. Vraiment, c'est limite, quoi. Rien que les factures, c'est pas évident à régler toutes les factures à la fin du mois. On est obligé de se serrer la ceinture. Quoi. Sinon, on n'y arriverait pas. Je ne vais pas me dire que c'est une malédiction. Loin de là, même. Je me dis qu'il y a pire que moi, quand même. Ça va, quoi, on n'est pas riche, mais on vit pas non plus dans la misère. Mais bon, faut voir après ce que je vais faire. Pour l'instant, je suis en CS, mais ce qui compte, c'est que je sois motivé pour avoir mieux après, c'est ce que j'espère. Et c'est sûr qu'à un moment, on est un peu découragé, surtout quand on prend de l'âge, quoi. Parce que bon, j'ai 31 ans, je commence sérieusement à penser à mon avenir. C'est pas évident, c'est sûr que c'est pas évident, mais faut se dire que bon, c'est pas la fin non plus, quoi. Si on veut, on peut, comme on dit.
On va faire un contrat, par exemple, c'est ce que comme vous disiez. C'est pas une malédiction, c'est pas la fin, je veux dire. On vit ça pour le moment, pour espérer mieux, mais plus tard. Tu vois, et parfois de compte, en sachant qu'il y a même des gens qui n'ont rien. À partir du moment où tu as des gens qui n'ont rien, moi je dis qu'il ne faut pas se plaindre. Donc ça, il faut être content. Pour le moment, on a ça, on le vit le mieux pour plus tard évoluer, en sachant que, attention, il y a des gens qui n'ont pas ça. C'est des gens qui sont vraiment malheureux, etc. Et tout.
Ça sert à rien, François. C'est sûr, c'est pas le grand luxe, ça. Mais franchement, c'est mieux que rien, déjà. Je veux dire, c'est mieux que rien. Hein.
Bah, oui.
C'est sûr, tu vois. On est obligé de se priver.
Mais je veux dire, il a...
Mais c'est pas la misère non plus.
Non plus, tout à fait, voilà. Je veux dire, il a un toit, il mange, alhamdoulilah, il est bien rasé, il est bien habillé. Je veux dire, il est pas... Ben oui. Je veux dire, par là, c'est pas SDF. On peut bien un malheureux. Je commence à, voilà, le mot là, comme on dit, à t'apitoyer sur ton sœur, t'en finis pas, mon garçon.
Si vous voulez, vous venez boire un petit café.
Non, mais je veux dire, les derniers mois de la vie...
Non, je voulais boire un petit café. Moi, tu vois, c'est sûr, l'avenir, ça. Mais c'est même, les problèmes, je ne pas les seuls. C'est la famille. C'est la santé de la famille. Ils sont plus trop contents du travail.
Bien
sûr.
Bah oui. Si tu as la santé, après le reste, c'est tout seul. Il faut faire les démarches, il faut.
Les démarches. Voilà ce qui compte, c'est les démarches. Merci à tous. Merci à Ahmed, à Mohamed, à Miloud et à Jacques. De la salle de musculation de l'association pour la prévention de la délinquance amiénoise à Préda, à Amiens. C'était un reportage et le premier reportage de François Ruffin. Que vous dit Pascal Pascariello? Ben, qu'il faut absolument aller au cinéma à partir du mercredi 2 février voir La raison du plus fort, documentaire de Patrick Jean qui montre comment les constructions de prisons s'accélèrent tandis que les fermetures d'usines se multiplient. Et puis jeudi 10 février, 20 à l'auditorium du musée de peinture, place Lavalette à Grenoble, le comité Tchétchénie organise une conférence Tchétchénie regard croisé en présence de Lida Yusupova, avocate tchétchène de défense des droits de l'homme. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis technique aujourd'hui. Olivier Rutor et Michel Bézikian, l'équipe de Là-bas si j'y suis, c'est Yann Chouquet, Antoine Chao, Pascal Pascariello et le répondeur, c'est Christophe Imbert qui s'en occupe. Le numéro, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail, daniel.mermet@radiofrance.com. Demain, là-bas, si j'y suis, ce sera à 17h. La soirée va vous être présentée par Alice Lepers après 1 minute et 40 secondes de publicité. Salut!